Semaine, donc, ma réflexion que j'ai aussi partagée jeudi matin, donc à notre temps de méditation. Hein, vous savez que le mardi et le jeudi, de 7h30 à 8h, nous avons un temps de méditation. Donc, voilà, des prémices ont été données, mais c'est un peu de notre regard que je voudrais vous parler de ce qui est arrivé à Jésus et lorsqu'il se retrouvait face aux tentateurs. Alors, nous allons lire les passages qui se trouvent dans Matthieu, chapitre 4, et nous voyons que déjà un verset qui est particulier au verset 1, « Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. » Il jeûna 40 jours et 40 nuits, puis il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte. Il le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « D'autre part, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très haute et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, « Je te donnerai tout cela, si tu te prosternes et si tu m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le laissa, et voici que des anges s'approchèrent de Jésus pour le servir. Seigneur, nous voulons nous remettre entre tes mains afin que ta parole puisse nous pénétrer. Tout à l'heure, nous avons entendu, entends les sons, entends ce que mon cœur a à te dire. Seigneur, que nos cœurs aussi puissent entendre ce que tu as à nous enseigner ce matin. Ouvre notre esprit. Par ton esprit, ouvre nos yeux et nos regards par la lumière de ta parole. Amen. Alors je présume que comme moi, le verset 1 ne vous a pas échappé. Jésus fut amené par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 14, il est dit que c'est rempli du Saint-Esprit qu'il revint du Jourdain et qu'il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Le but est clair. Dieu va permettre par son Saint-Esprit d'emmener Jésus dans le désert. Pourquoi ? Pour être tenté par le diable. C'est surprenant. Tout homme, disait un commentateur, de Dieu destiné à de grandes choses a besoin d'une telle préparation pour Jésus. La grande œuvre qui l'attend, c'est le salut du monde. C'est quand même pas rien. Cela arrive juste après son baptême, un grand moment qui marque le point de départ de son ministère public avec ce ciel qui s'ouvre et une voix qui se fait entendre. Et Dieu, donc l'Esprit de Dieu, descend sur lui comme une colombe. Vous savez, on dit souvent aux baptisés, quand vous passez par les eaux du baptême, c'est merveilleux, c'est un peu le ciel sur la terre, hein. Mais attention à l'atterrissage, hein, parce qu'après le baptême, Jésus a connu le désert. Et si on ne les prévient pas, ils se disent « Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Pourquoi autant d'acharnement sur moi ?» C'est dans la pédagogie divine. D'éprouver les motivations, de voir notre résistance, nous habituer à la lutte afin de mieux le servir, quel que soit le service. Tous les chrétiens sont concernés par cela. Alors il jeûna 40 jours et 40 nuits. Bon, je ne sais pas si vous avez déjà jeûné. Déjà, un jour, c'est compliqué. on tourne autour du frigo. Le deuxième jour, je vous dis pas. Alors je suis allé voir sur le site Allo Docteur, site sérieux. Il a été dit ceci sur le jeûne. Classiquement, on applique la règle de 3. On dit qu'on ne peut pas survivre 3 jours sans manger, pardon, 30 jours sans manger, 3 jours sans boire et 3 minutes sans respirer. Voilà pour la théorie. Pour la pratique, beaucoup d'éléments peuvent faire varier ces chiffres. La volonté joue certainement un rôle clé. Un exemple célèbre de Bobby Sands, un des membres de l'IRA, l'armée républicaine irlandaise, qui est mort en détention en 1981 après 66 jours de grève de la faim. Privé de nourriture, son corps va s'adapter. Alors il y a une première phase de 1 à 3 jours. L'organisme va d'abord puiser ses réserves de glucose, d'eau et de sel. Cela entraîne une perte de poids souvent rapide et importante. Après, il y a une deuxième phase qui peut aller jusqu'à 2 semaines. L'énergie est obtenue en puisant dans les réserves de graisse et dans les muscles. Cela entraîne une fonte musculaire. Le corps fonctionne alors au ralenti, en abaissant le rythme cardiaque et la tension artérielle. Troisième phase, l'organisme va utiliser les dernières réserves disponibles, les protéines, composant l'essentiel de nos cellules. L'un des premiers signes, c'est la couleur des urines qui devient foncée, la peau et la langue et la bouche qui se dessèchent, le sang s'épaissit, la tension artérielle chute, perte en sels minéraux provoque des maux de tête, des crampes, des troubles de la conscience qui peuvent aller jusqu'au coma. Ah, ça nous donne un peu un éclairage sur l'état physique de Jésus au bout de 40 jours de jeûne et de prière. En réalité, le Seigneur, qui est Dieu, mais il est aussi homme, est dans une situation de très grande vulnérabilité physique. L'évangile de Marc ajoute ceci, qu'il y avait dans le désert, bien sûr Jésus, mais aussi des animaux sauvages. Alors j'imagine un peu la situation du Seigneur. Après 40 jours de jeûne et 40 nuits, Jésus eut faim. Alors c'est curieux, on a l'impression que c'est arrivé d'un coup comme ça, il dit « Tiens, j'ai faim ». Mais c'est pour nous montrer que Jésus a une pratique régulière et la discipline du jeûne. Quand il eut faim, c'est à ce moment-là que le diable, le tentateur, s'approcha de lui. Alors ce tentateur, nous le connaissons, hein. Il est tentateur, il est menteur, meurtrier, il séduit tous les habitants de la terre. La Bible est remplie de qualificatifs. Non, cette histoire n'est pas un mythe. Ce n'est pas le fondement d'une légende ou une histoire que l'on raconte sans qu'elle ait existé. Il est bien réel. Il a même un avantage sur nous, c'est que le diable, aussi méchant et mauvais soit-il, peut se présenter devant Dieu, sans crainte, à discuter avec lui. Ce qui n'est pas quand même donné à tout le monde. Alors, le mot diabolos veut dire calomniateur, accusateur. Et Satanas veut dire adversaire, ennemi. Alors, sa meilleure arme, c'est la tentation. La séduction par nos désirs et nos besoins intérieurs. Il va utiliser la peur, il va utiliser le doute, il va utiliser toutes sortes de stratégies dans le but de nous faire tomber. Le diable se sent menacé et il sait que Jésus est venu pour détruire ses œuvres. 1 Jean 3,8 nous dit « Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable ». Sa mission est claire. Et le diable a déjà mis un plan de bataille en action. 30 ans auparavant, quand il a fait tuer tous les enfants qui habitaient à Bethléem et dans la localité, par Hérode. Nous voyons aussi une activité démoniaque particulièrement riche, ou du moins terrible à l'époque de Jésus. Des possessions importantes, des manifestations occultes. Et ici, le diable va l'attaquer lorsque Jésus se sent faible sur le plan physique. Le message de la bonne nouvelle que nous prêchons et que nous vivons, c'est l'histoire aussi d'un grand combat contre les forces du mal, contre le péché, pour le salut de nos âmes. On ne sait pas sous quelle forme le diable s'est présenté à Jésus. Je ne pense pas que ce soit une forme effrayante, vous savez, voilà. Mais plutôt une forme attirante même, accessible. Paul dit qu'il se déguise même en ange de lumière. Alors les films et les histoires se le représentent en serpent. C'est possible, un personnage humain, pourquoi pas. En tout cas, il est visible par Jésus. Et vraisemblablement perceptible, et non pas dans son imagination. Alors il va utiliser trois méthodes. Première méthode, c'est la méthode du doute. Tentation du doute. Si tu es le Fils de Dieu. En semant le doute dans le cœur de Jésus, il va essayer de mettre à mal ses certitudes. Tactique qu'il utilise, bien sûr, avec nous, comme il a utilisé avec Adam et Ève. Alors, ses certitudes, c'est le ciel qui s'ouvre après son baptême, et une voix qui se fait entendre, et cette voix lui dit, « Celui-ci est mon Fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Ah, c'est sensationnel, non ? Avec une parole comme ça, on est gonflé à bloc. Alors le diable attaque sur des évidences qu'il essaye de faire bouger. Jésus sait qu'il est aimé de Dieu, mais nous le savons tous, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'il nous arrive d'en douter? Ah. Esaïe dit, si vous n'êtes pas ferme dans votre foi, dans vos certitudes, vous ne serez pas affermi lorsque vous serez attaqué. Alors, quand il n'y a pas de certitude, il n'y a pas de sécurité. Et quand il n'y a pas de sécurité, eh bien, nous voilà affaiblis, vacillants, troublés. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne. Ça m'a fait rappeler, ça me fait souvenir un jeu stupide. Vous savez, quand on est gamin, bon, on n'est pas toujours intelligent. C'est le t'es pas cap. Vous avez joué à ça, hein? Ça va loin. Alors, je me souviens la première fois où ça m'a vraiment interrogé. Alors, je devais avoir 10 ans. C'était en colonie. Et autour de la table, on discutait, et il y avait parmi nous un rebelle. Un qui voulait prouver qu'il était capable de faire quelque chose. Alors, l'un de nous lui a dit, tu n'es pas capable de prendre ton assiette et de la jeter par terre. Et ce bougre l'a fait. Mais il l'a fait. On n'a plus revu l'assiette, ni ce camarade qui a été renvoyé sur le champ. Un jeu stupide que l'on peut faire. Et le diable dit, voilà. Ordonne, tu n'es pas capable, si tu es le Fils de Dieu, de transformer ces pierres en pain. C'est un peu ce qu'il lui dit, hein. Il demande à Jésus d'employer sa puissance pour lui prouver. Et nous, peut-être, on aurait dit, mais vas-y, montre-lui que tu es le Fils de Dieu. Mais il ne tombe pas dans le panneau. Le niveau demandé est accessible. Jésus peut le faire. Parce qu'il a la possibilité de faire des miracles. Et parce qu'il est réellement le Fils de Dieu, rien ne l'empêche. Ses disciples le reconnaîtront eux-mêmes lorsqu'il aura arrêté la tempête. Ils diront en tremblant et déclareront « Tu es véritablement le Fils de Dieu ». Mais ici, pour Jésus, le défi était de montrer qu'il dépendait du Père. Ce n'est pas une histoire de pain ou de je ne sais quoi ou de nourriture avant tout. Le test était « Est-ce que tu vas attendre les ordres du Père ?» pour la rupture du jeûne, ou décider de toi-même. La dépendance de Jésus jusque dans sa nourriture. C'est l'exacte situation contraire qu'ont vécu Adam et Ève bien avant. Eux, ils étaient bien nourris, logés, chauffés, etc. Blanchis. Bon, il n'y avait pas grand-chose à laver. Hein. Ils vivaient dans l'abondance. Et ils avaient un jardin pour eux. Et ils sont tombés. Jésus est à l'opposé dans cette situation. Il est dans le désert depuis 40 jours. Il n'a rien pour lui. Et il est resté. Le peuple d'Israël, pendant 40 ans, était dans le désert. On dit, ah oui, 40 ans. Mais ils avaient tous les jours la présence de Dieu. La manne, L'eau, les colonnes de nuée, de feu. Et pourtant, ils sont tombés. Jésus, dans le désert, est faible, mais il ne va pas répondre. Et bien qu'il avait envie certainement de manger, mais il ne va pas répondre à cette demande, car sa vie n'appartient pas au diable. Il n'est pas venu pour lui. Il ne cherchera même pas sa propre volonté, mais toujours celle du Père. Cette attaque est puissante, bien plus puissante que ce qu'on peut imaginer. D'ailleurs, toutes les attaques de l'ennemi sont puissantes. Ne sous-estimons jamais lorsque quelqu'un nous dit « j'ai été tenté par telle ou telle chose ». Si nous, ça ne nous touche pas, la puissance de l'attaque dans nos domaines peut être phénoménale. Phénoménale. La réponse de Jésus est simple. L'homme est profonde. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà une réponse claire, efficace, devant le tentateur. Ça veut dire que nos réponses à nous aussi dépendent de notre connaissance de la parole de Dieu. Comment pouvons-nous répondre si nous n'avons pas cette connaissance? On aurait beaucoup moins de problèmes si nous connaissions et obéissions simplement à la parole de notre Seigneur. Vous savez, parfois dans les couples, il y a des situations complètement terribles, alors que souvent la parole est claire là-dessus. Tout à l'heure, Étienne nous a parlé de l'éducation des enfants. La parole de Dieu nous enseigne le principe d'encouragement, mais aussi celui de la correction, de savoir dire non. Et dans les relations fraternelles, combien de principes bibliques avons-nous à notre portée pour nous aimer, nous supporter, nous pardonner, nous parler avec amour et vérité, et parfois même se taire? Eh oui, tout est à notre portée. Il s'agit de la connaître et de la mettre en pratique. La Bible n'est pas un annoncé de principes en disant « si tu as tel problème, voilà telle solution ». Ça, on aime bien, mais elle est plus profonde que cela. Si on obéissait simplement à cette parole inspirée qui nous donne aussi des directives pour notre bien, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà la deuxième tentation. La tentation de l'excès de foi. Jette-toi en bas. Alors le diable ne perd pas de temps. Le diable transporta dans la ville sainte et le plaça sur le temple. Alors, en réalité, c'est sur le faîte du temple. La traduction littérale serait sur l'aile du Saint-Lieu. Alors l'aile du Saint-Lieu, c'est l'endroit le plus élevé du temple. Alors tout à l'heure, on a décrit un peu ce qu'était quelqu'un qui jeûnait pendant quelques semaines. Imaginez le vertige que Jésus a dû ressentir et vivre. Le diable profite de cette faiblesse pour l'amener devant la ville sainte. Jésus-Christ est pleinement Dieu, mais il est aussi pleinement homme. Il souffre, il est fragile, il a faim, il a soif. Et là, le diable va utiliser l'Écriture pour lui parler. Il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Et il cite, Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Alors, nous pouvons citer les Écritures, Satan aussi peut le faire. Combien il y a eu d'excès avec l'Écriture citée? Dans un certain sens, on peut faire dire à la Bible tout ce qu'on veut. Mais il est important de regarder ce que dit vraiment le texte. Le diable cite Psaume 91, versets 10 à 11, mais il oublie un petit détail qui a son importance. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et le diable oublie de citer ce qui est en bleu, pour te garder dans toutes tes voies. Ah, vite cité. Un peu, vous savez, le magicien, le prestidigitateur, il nous amuse d'un côté pour faire son tour de l'autre. D'après ce psaume, en réalité, c'est celui qui fait la volonté de Dieu qui est protégé par Dieu lui-même. Celui qui est assuré que Dieu le conduit, il peut trouver un refuge en l'Éternel, à tel point que même si le malheur venait à l'atteindre, ou le fléau, eh bien, il pourrait compter sur la fidélité de Dieu et il sera gardé dans toutes ses voies. C'est-à-dire que rien dans sa vie ne se passe sans l'intervention, la connaissance et la présence de Dieu. C'est cela que veut dire ce psaume. Les interventions de Dieu ne sont pas toujours des manifestations spectaculaires et prodigieuses. Jésus aurait pu se jeter depuis cette hauteur du temple. Ça aurait été vraiment spectaculaire. Il ne serait pas mort, les anges l'auraient certainement recueilli. Et en plus, que dire de tous ces Israélites pieux en train de le reconnaître comme Messie. Mais le Seigneur a dit, « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Ce que veut dire ce passage, c'est que Dieu te gardera sur le chemin dans lequel tu marches, et non pas provoquer une situation où tu obliges Dieu à intervenir. Est-ce qu'il t'est arrivé de mettre Dieu dans une situation où tu l'as obligé à intervenir? C'est cela, tenter Dieu. Il y a quelques années, peut-être 2 ou 3 ans, j'ai lu un article intéressant. Un prédicateur a assuré à sa communauté de la grandeur de sa foi. À tel point qu'il a dit ceci un dimanche matin, « Je vous donne rendez-vous cette semaine et je vais marcher sur le fleuve et le traverser. » Fleuve infesté de crocodiles. En marchant sur l'eau et gare à ceux qui ne le croiraient pas. Et il l'a fait. Je ne qualifierai pas cet homme. Il a fait la une des journaux locaux parce que les crocodiles l'avaient dévoré. Peut-être ce sont eux qui ont prié pour que Dieu leur donne à manger. Ceci peut nous faire rire, mais au-delà du drame humain, c'est aussi une manière de tenter Dieu. De mettre Dieu dans une situation où il est obligé. Vous savez, j'avais une sœur en Christ qui me disait, à 130 sur autoroute, le Seigneur est avec toi. À 140, il te tire la veste en disant, hey! Et à 150, les anges quittent la voiture. Eh oui, les anges ne sont pas fous. Dieu n'est pas au service de notre popularité. Dieu n'est pas au service de notre vie chrétienne. Et l'apôtre Paul met en garde aussi dans les choix que l'Église devait faire dans ses responsables en disant à 1 Timothée 3:6 que peut-être, vous savez, quand on est jeune chrétien, on croit que beaucoup de choses sont absolument possibles avec la foi. Mais on tombe dans une certaine arrogance. Et Paul dit avec sagesse que celui d'un choix de responsable d'Église, qu'il ne soit pas un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe pas sous le jugement du diable. Ah, le zèle excessif et amer. Jésus est clair, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Son temps est son temps, ce n'est pas à nous de le provoquer. Troisième tentation, la victoire facile. Le diable le transporta sur une haute montagne et lui montra tous les royaumes et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai tout cela, si tu te prosternes et tu m'adores. Jésus est venu pour accomplir le plan de Dieu, pour sauver les hommes. Il le savait. Satan aussi. Alors Satan va droit au but. Tu es venu pour être roi des rois. Eh bien moi, Satan, je t'offre sur un plateau la possibilité de le devenir sans passer par la croix. Sans passer par les problèmes, sans passer par la souffrance. En un mot, je t'offre les plus grandes faveurs d'accomplir ta mission et de l'achever maintenant, devant moi. Tu vois tous ces royaumes, pourquoi te fatiguer à les gagner en versant ton sang? Moi, je te les donne. Tu n'as qu'à tout simplement te prosterner devant moi. Et tout ça est à toi. Le diable est le père des mensonges, mais je pense que là, il ne ment pas. Il joue vrai. On n'imagine pas la portée de cette proposition. Tous les royaumes du monde contre un seul geste. Je pense que le diable a fait sa plus grande promesse. Le Dieu de ce siècle, le prince de ce monde, offre des chemins des plus courts et des plus faciles vers ce but. Ne fait-il pas cela aujourd'hui encore avec nous? Chemin de la facilité, de la séduction, de la convoitise, selon la pensée du monde. Nous savons tous qu'une bonne opportunité ne veut pas dire la meilleure option. Nous savons tous que le plaisir immédiat ne veut pas dire approbation du Seigneur. Nous savons tous qu'un cadeau offert sur un plateau n'est pas forcément bon à prendre. Allez demander ça au poisson que vous allez manger à midi. La facilité n'est pas forcément approuvée de Dieu. Tricher, c'est facile. Mais, plus facile que de réviser. Mais, est-ce que c'est agréable au Seigneur? Persévérer dans ses commandements n'est pas facile. Mais c'est ce qui est agréable au Seigneur. En adorant Satan, ça aurait été vraiment facile. Mais il aurait compromis tout le plan du salut prévu de toute éternité. Et le diable aurait gagné pour toujours la bataille. Jésus préférera fonder son royaume dans l'humilité, en acceptant la souffrance, en s'offrant lui-même en sacrifice plutôt que de se courber devant le prince du mal qu'il nomme Satan, l'adversaire. Et il lui parle avec autorité. Jésus lui dit, retire-toi de moi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte. Alors le diable le laissa, et voici que des anges s'approchèrent de Jésus pour le servir. Alors, quels sont les enseignements que nous pouvons retenir de ce texte? Tout d'abord, la vie de l'homme ne se limite pas seulement à son existence physique. Nous sommes composés de 30 000 milliards de cellules. Nous avons un début et nous avons une fin. Mais notre vie n'est pas cela. Vous savez, lorsque Adam et Ève ont désobéi à Dieu en mangeant le fruit de l'arbre défendu, ils avaient cette promesse, du moins cet avertissement, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Ils n'ont pas compris la portée de cette parole et la portée de leur geste. La plus grande douleur a été leur mort spirituelle. L'homme a besoin de pain pour vivre, c'est vrai, mais il a aussi besoin de relations avec son Créateur. La vie d'un homme est bien plus que sa vie physique. On voit l'impact énorme du confinement ou des restrictions sanitaires. On n'est pas là seulement pour manger et boire et rester à la maison. On souffre aussi de ce manque de relationnel, ne serait-ce qu'entre hommes, entre personnes. Alors imaginons la parole de Dieu qui nous dit « Et votre relationnel avec lui ?» Si on est privé de cela, nous serons terriblement malheureux. La parole de Dieu est vivante et efficace, nous dit Hébreux 4. Alors c'est une réalité, ce n'est pas une théorie. Si tu t'en nourris, elle te transmettra des forces, les forces du Seigneur dans ta vie. La vie de l'homme ne se limite pas seulement à son existence. Et puis, il faut être sûr que nous rencontrerons toujours des luttes, des tentations et l'adversité ici-bas. Nous voilà engagés en tant qu'enfants de Dieu, mais le diable a un éventail de tactiques à nous proposer. Nous voilà engagés, voilà, des bâtons dans les roues. Nous voilà motivés et nous recevons une nouvelle qui nous décourage. Nous voilà bien dans un domaine et voilà qu'une tuile nous arrive. Dans nos saisons, qu'on n'attendait pas. Plus tu souhaiteras avancer avec le Seigneur, nourrir ton âme, et plus l'ennemi se manifestera. Ça, c'est clair. Par intimidation, parfois par découragement, parfois même par des promesses. Ne négligeons jamais la puissance et l'attraction que l'ennemi met en œuvre. Il va actionner le levier du doute. Est-ce que tu es persuadé d'être un enfant de Dieu? L'excès de foi? Regarde ce que Dieu dit, vas-y. Ou la facilité. Pourquoi devrais-tu te priver de cela et souffrir davantage? Il fera briller ses promesses, minimisant toujours le coût à payer. C'est le doux chant des sirènes. Vous savez, Jésus était puissamment rempli du Saint-Esprit quand il est allé au désert. On peut être rempli du Saint-Esprit, approuvé et être approuvé de Dieu. Nous ne serons pas pour autant épargnés par les traits enflammés de l'ennemi, et nous connaîtrons des déserts. Ça a été le cas pour Jésus. La troisième chose, c'est quand nous chutons, au lieu de nous justifier ou mettre une distance avec le Seigneur, nous devrions plutôt nous rapprocher de lui et lui demander pardon. Le texte ne mentionne pas la croix, ne mentionne pas le pardon, c'est vrai. Mais ici, il s'agit de la croix, de mettre tout ça par terre. Jésus se prépare pour le salut du monde, ça veut dire pour le pardon des péchés, par son obéissance. Nous, quand nous désobéissons, on se connaît un peu, non ? Soi-même déjà, nous avons tendance à justifier notre désobéissance. Vous savez, nous trouvons des excuses. On l'a fait parce que si, parce que cela. En réalité, nous n'avons pas d'excuses valables. Nous avons simplement manqué de foi ou de persévérance. Vous savez, comme Saül, lorsqu'il était à la guerre, et Samuel lui dit, « Attends 7 jours et je reviendrai. » Et puis, que fait Saül ? Ben, il fait comme Charles. Il attend. Alors, au bout de 7 jours, ben, rien, il ne voit rien venir. Et les hommes d'Israël se dispersent. Et que fait Saül ? Il offre un sacrifice, alors qu'il ne devait pas. Et lorsque Samuel l'attrape en flagre, qu'est-ce qu'il lui dit ? Je l'ai fait parce que le peuple d'Israël était en train de déserter. Aucune excuse valable. Samuel était arrivé le 7e jour et Saül a perdu sa royauté. Samuel dira même, l'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tout danger révèle notre degré de foi, de confiance. Devant ces tests, comment est-ce que tu réagis? Jésus n'a pas plié sous les assauts du plus puissant ennemi qui existe. Nous pouvons donc nous confier en lui. Il a été tenté comme nous, et même bien plus que nous. Nous pouvons nous identifier à lui. Dans notre Père, il nous a appris à dire, « Père, ne nous laisse pas entrer en tentation. » Ça veut dire, « Père, je veux toujours dépendre de toi. » Et Dieu merci, nous ne serons jamais tentés au-delà de nos forces, jamais tentés comme Jésus l'a été. Nous n'avons donc pas d'excuses valables. Nous pouvons trouver le pardon auprès de Dieu. Et nous avons un grand sauveur. La dernière leçon que je vous propose, c'est que Jésus a vaincu le tentateur. Il a gagné une bataille ici, dans ce tête-à-tête. Mais à la croix, il gagnera la guerre. Et la victoire sera publique. Colossiens 2,15 nous dit qu'il a dépouillé les principaux et les pouvoirs, il les a publiquement livrés en spectacle, en triomphant d'eux par la croix. Depuis, nous pouvons déclarer que les enfants de Dieu sont du côté du grand vainqueur, que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est lui qui va écraser la tête de ce serpent. Alors, nous pouvons nous positionner face à l'ennemi et dire à Satan que nous appartenons à Jésus, que nous lui appartenons corps, âme, esprit. Lui rappeler que notre force, c'est Jésus. Lui rappeler que notre rocher, notre appui, c'est Jésus. Lui rappeler que notre salut, c'est Jésus. Quelle belle promesse, mes frères et sœurs. N'oublie jamais que tu es l'enfant d'un Dieu tout-puissant. En toi, Dieu a mis son affection. En toi, Dieu a mis son esprit. Il a déposé son amour. Ne t'arrête pas en chemin. N'en reste pas là. On a tous besoin encore de progresser. Tous, de grandir. Et la maturité spirituelle se travaille. Bien sûr, il y a la part de Dieu. Mais il y aura aussi notre soumission et notre confiance et notre proclamation. Oui, c'est lui qui détient l'autorité et qui a accompli une promesse faite à toute l'humanité. Il écrasera la tête de notre ennemi par son talon afin de nous donner la victoire. C'est lui qui sauve avec puissance. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Amen.